Il y a quelques années, j'ai vu un film où on mettait en scène, alors c'était un film chrétien, on mettait en scène un monsieur, hein, un homme chrétien, marié, qui devait être embauché dans une entreprise et il avait comme tâche, je crois, un transfert de fonds, rôle bien important. Et lors de son recrutement, il a été mis à l'essai, il était en concurrence avec d'autres pour le même poste. Et dans son travail de tous les jours, il s'est trouvé qu'il était en face d'une grosse somme d'argent. Rappelez-vous, hein, son travail, c'était convoyeur, au fond. Grosse somme d'argent. Et il s'est mis à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Et donc, ce bonhomme-là, il a pris l'argent. Il a été voir son patron et il lui a dit, voici ce que j'ai trouvé. Et le patron, souriant, avec son associé, secoue la tête et dit à l'autre, vous avez le job. Parce que c'était un test. Il y avait d'autres concurrents qui ont échoué, bien sûr, à ce test-là, mais lui, il avait réussi le test. Comment vivre en chrétien en restant fidèle à mes convictions dans un environnement hostile aux chrétiens et à la foi chrétienne? Comment savoir quand je dois obéir? Et quand je dois me rebeller lorsque ce qui m'est demandé de faire quelque chose. Je crois que le récit que nous allons lire aujourd'hui, se trouve en Daniel, peut nous aider à répondre à ce genre de questions. Je nous invite à la lecture de ce texte de Daniel, chapitre 1. Dans ce texte, l'héros de l'histoire se retrouve dans une situation, peut-être que vous connaissez assez bien ce récit-là, et nous allons voir comment eux, ils ont géré leur situation. Daniel, chapitre 1, versets 1 à 21, ensemble. Vous êtes là. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël ou celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ? Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania et Michaël et Adazaria, éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nabucodonosor, le roi s'était avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Surtout les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi de Cyrus. Amen. Il paraît étrange à première vue de vouloir trouver chez Daniel et ses amis des solutions ou des réponses à des problématiques qui semblent éloignées de nous. Qui semblent, je dis. Après tout, nous ne sommes pas à leur époque, nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux. Pourtant, comme Daniel et ses amis, nous sommes, dit la parole de Dieu, exilés dans ce monde. Voyez 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Les chrétiens sont des exilés dans ce monde. Et dans ce cas, l'exemple de Daniel est parlant pour nous, peut nous aider. Peut nous aider à faire quoi, dans un premier temps? À discerner la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, il me semble qu'il faut avoir de bonnes lunettes, de savoir lire notre histoire avec des jumelles, plutôt qu'avec un télescope. Vous savez, pour regarder dans des jumelles, il faut utiliser les 2 yeux. Le télescope, on utilise un œil. Et il peut nous arriver de manquer des choses en utilisant un seul œil. Mais il faut bien utiliser les 2 yeux. Pour percevoir plus de choses. Et donc, savoir lire notre histoire avec des jumelles. Par exemple, on pourrait y voir, en utilisant qu'un seul œil, en lisant l'histoire du peuple d'Israël, dans le livre de Daniel, on pourrait y voir que l'histoire d'un peuple emmené en exil parce que le roi de Babylone, Nabucodonosor, a battu l'armée d'Israël. Cependant, quelques juifs déportés en Babylone ont su user d'intelligence, de sagesse, pour s'accorder la faveur de quelques dignitaires à Babylone et au roi. Mais lorsqu'on regarde les choses avec des jumelles, on s'aperçoit que cette même histoire prend une autre dimension, en particulier lorsqu'on regarde les choses du point de vue de Dieu. Dieu, qui apparaît par 3 fois dans ce chapitre, verset 2, Dieu donne au roi babylonien la victoire sur le roi de Juda. C'est lui qui donne la victoire à Nabucodonosor. Verset 9, Dieu donne à Daniel que le chef du personnel témoigne de la bonté et de la compassion. Ça ne vient pas de Daniel, c'est Dieu qui donne. Verset 17, Dieu donne à Daniel et ses amis la connaissance, l'intelligence et la sagesse. c'est Dieu qui donne. Et dans ces trois cas, Dieu est sujet du verbe, vous l'avez bien compris, du verbe donner. Pourquoi il donne ? Il semble que le récit, là, veut souligner la souveraineté de Dieu sur toutes les situations dont ces bonhommes-là font face. L'exil, la relation avec les Babyloniens, la sagesse reçue, tout ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est au contrôle. En effet, et Sylvain l'a dit tantôt, Dieu maîtrise même les épreuves que nous traversons. Il est au contrôle. Et nous pouvons d'ailleurs dire heureusement. Heureusement qu'il est au maîtrise de toutes les situations que nous vivons. Parce que cela nous permet de continuer à compter sur lui, par exemple, au milieu de ses épreuves, de continuer à croire qu'il peut changer nos situations comme il lui plaira et quand il lui plaira. Daniel et ses amis sont pleinement conscients de ce qui se joue dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'ils regardent avec les jumelles, avec les bonnes jumelles. Ils ont donc pu éviter deux pièges. Ne pas tout spiritualiser et tomber dans un laxisme et un fatalisme selon laquelle Dieu fait tout et on n'a plus qu'à se résigner. Et l'autre, ne pas se réduire à ce que l'on voit simplement et tomber dans un légalisme, un moralisme qui consiste à dire « Nous devons agir, oui, mais ça va dépendre de nos efforts. C'est nous qui devons faire. » Alors que je vous ai mentionné, hein, versets 2, 9, 17, c'est Dieu qui fait, qui agit. Cela ne vient pas d'eux. Et en regardant avec des jumelles, ils ont pu discerner qu'il fallait agir, oui, mais que Dieu leur demande surtout d'agir en comptant sur lui seul. Sur lui seul. À quoi concret dans notre texte ? On apprend à regarder le monde qui nous entoure avec des jumelles. Il faut l'apprendre au travail, au lycée, au collège, à l'université. Cela présuppose aussi de croire que Dieu ne guide pas uniquement son peuple, ses enfants, mais bien toute personne, toutes les événements. On est frappé de lire parfois dans la parole de Dieu que des rois que nous estimons méchants contre les enfants d'Israël, Dieu les appelle ses serviteurs. En l'occurrence, ici, le roi de Babylone, Nabucodonosor, est vu comme un serviteur de Dieu. Parce que là, il est en train d'exécuter un jugement que Dieu a ordonné sur ses enfants. Dans notre texte, verset 9, Dieu incline le cœur du chef des eunuques à la faveur de Daniel et ses amis, le rendant ainsi compréhensif, amical. C'est Dieu qui fait. Nous avons tendance à cantonner la souveraineté de Dieu en croyant qu'il ne guide que son peuple. Et c'est bon, c'est tout. Il a fini son boulot. Et même dans un environnement hostile, même dans un cadre difficile pour les croyants, Dieu continue à diriger toutes choses selon son plan parfait. Il conduit même les méchants en notre faveur. Nous l'avons lu, il est capital que nous puissions discerner quelle période nous vivons, quelle saison, aiment dire certains théologiens, dans lequel Dieu nous a placés, avant de chercher à savoir comment se comporter, avant de savoir comment agir, comment coopérer dans mon travail, par exemple. En effet, c'est parce que Daniel et ses amis ont compris que l'exil a été guidé par Dieu, qu'ils ont pu saisir la mission que Dieu leur confiait à ce moment-là. Une coopération nécessaire avec les Babyloniens, avec un peuple païen qui leur est hostile. Et pour se prémunir du danger, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la coopération nécessaire de ce qui est de l'ordre de la coopération choisie. Pour Israël, cela veut dire que si cette coopération nécessaire avec les Babyloniens est bonne dans ces circonstances guidées par Dieu, cela n'implique pas une coopération choisie avec les Babyloniens. Par exemple, dans d'autres circonstances. Et souvent, les prophètes ont averti les enfants d'Israël de ne surtout pas se mélanger, de ne surtout pas coopérer avec les Babyloniens. Ça a été un avertissement à longueur de temps. Et d'ailleurs, d'autres peuples aussi. Il ne fallait surtout pas que les Israélites se mélangent. Parce que cela voudrait dire qu'ils font davantage confiance à des puissances étrangères plutôt qu'à leur Dieu, à eux. Et antérieurement à l'exil, justement, c'est ce qui a précipité l'exil des enfants d'Israël. Ils se sont reposés sur l'Égypte pour venir à leur secours contre la nation assyrienne. Et Dieu s'est offusqué de cela. Discerner la saison et la motivation profonde, est capitale pour savoir si oui ou non nous pouvons coopérer. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps du royaume inauguré, le temps d'une église qui est envoyée en mission par le Seigneur pendant le temps de l'exil que nous vivons en ce moment. Et donc, nous devons nécessairement coopérer avec le monde. Nous sommes dans le monde. Pas du monde, mais nous sommes dans le monde quand même. Nous devons coopérer avec ce monde. Nous devons aller à leur rencontre et chercher à les rencontrer dans notre ville d'Argenteuil, ou là où nous nous situons. Mais cela n'enlève pas le fait qu'il faille faire une distinction claire entre cette coopération nécessaire dans la période que nous vivons et les coopérations qu'on pourrait choisir pour X et Y raisons, celles qui découleraient de manque de foi, de manque de confiance en Dieu, par exemple. On peut par exemple choisir de travailler avec, ou non, avec tant d'entreprises, si nous sommes chefs d'entreprise, qui a une éthique un peu suspicieuse, dans tel secteur qui promet l'injustice. En ce moment, je me bagarre avec ma fille pour ne pas faire des commandes sur Chine. Je lui dis à chaque fois, c'est chinois. Parce qu'on sait très bien comment les Chinois fabriquent leurs choses et la main-d'œuvre qu'ils utilisent pour le faire. Et moi, je suis contre ça. Pourtant, on achète chinois tout le temps. Tout le temps dans les magasins. Vous soulevez un objet made in China. Mais il est nécessaire de coopérer avec tel collègue dans mon entreprise, même si celui-là a des valeurs diamétralement opposées aux miennes. Ça, je ne le choisis pas. Lorsque cette distinction n'est pas faite, on risque de tomber dans certains pièges, de choisir de ne pas coopérer alors qu'il aurait été nécessaire de coopérer, par exemple. Et l'inverse aussi. Deux extrêmes à éviter, donc. D'un côté, l'ostracisme, on se replie sur soi, et de l'autre, le syncrétisme, où tout est dissolution du moi. Je me fonds dans la masse. D'un côté, ma foi est un prétexte pour agir contre celle-ci, avec un type de discours qui éloigne les autres, Je ne peux tout de même pas faire ça. Ce n'est pas chrétien. D'un autre côté, ma foi est affaiblie et je finis par agir contre elle avec un discours du genre « Je n'ai pas le choix. Tout le monde le fait, ça. Pourquoi pas moi ?» ça nous arrive très souvent et très facilement d'avoir à faire ce choix. L'ostracisme, le syncrétisme, laxisme. Il y a une tentation aussi lorsqu'on se retrouve dans des situations difficiles, la tentation de se retirer. C'est pas pour moi. Je ne mange pas de ce pain-là. Dans une société comme la nôtre, où les valeurs chrétiennes sont mises de côté, par exemple, évincées de la place publique, on ne connaît plus rien du christianisme. Vous avez remarqué? On dit en théologie qu'on est dans une période post-chrétienne, post-vérité. Chacun façonne sa vérité. Et c'est difficile de vivre en chrétien dans un tel monde. C'est difficile d'affirmer sa foi dans un tel monde. Mais il y a une bonne chose tout de même. C'est que l'occasion nous est donnée de marquer notre différence, par exemple. Nos croyances et nos valeurs sortent suffisamment de l'ordinaire pour susciter des interrogations lorsque nous osons en parler, lorsque nous osons marquer cette différence. La tentation évidente est bien celle de se taire, que ce soit en fuyant notre travail, en cherchant à aller ailleurs, une autre école par exemple, ou simplement de se taire, de peur de faire des vagues, ou de peur d'être épinglé dans mon entreprise, dans ma classe, de peur d'être affiché. Et cela peut être dû à la peur, être pris pour quelqu'un de bizarre, soit encore à mon désir de ne pas me corrompre. Hein. Parce que la Bible dit bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors on se campe dessus, hein. On ne peut pas me mélanger surtout. Donc si la première raison, c'est-à-dire la peur, est clairement mauvaise, la seconde, ne pas se corrompre, est parfois la plus subtile et pernicieuse, parce qu'elle conduit à une faute par omission, pourrais-je dire, un manque d'amour envers mon prochain. On n'y pense pas toujours, de ce point de vue-là. Je ne m'implique pas auprès de mes collègues parce que ils ne sont pas comme moi, ils ne sont pas purs. Ma pureté passe avant tout. Et du coup, je manifeste là un manque d'amour, en tout cas la possibilité de les influencer, de les aider, de les aimer. Je pense être supérieur aux autres. Et que de toute façon, ils ne changeront jamais, ces gens-là. Ils sont trop mauvais, car ils sont trop aveugles. Il y a aussi notre tentation, celle de se conformer, notre extrême, suivre le mouvement, faire comme tout le monde. Et ça peut venir de manière plus subtile encore, ne rien dire. On dit souvent qu'il est simple d'aller en enfer, il suffit juste de ne rien faire. Et on y va. Encore une fois, se taire, et pour d'autres raisons cette fois-ci, pas se taire pour fuir, mais se taire car, au contraire, je suis les autres. Pourquoi? Peut-être parce que je me dis que ce n'est pas si grave, la situation, c'est juste une question de forme, que tout le monde le fait, c'est juste culturel. La Bible ne dit-elle pas de se faire tout à tous? Donc je me tais. Si Daniel et ses amis ont clairement choisi de coopérer avec les Babyloniens, ils ne tombent pas pourtant dans le piège de se laisser influencer par eux. Ils auraient pu se dire, tant qu'on y est, Dieu nous a placés à Babylone, on doit donc s'adapter maintenant. faire un effort pour ne pas trop se faire repérer, car c'est là notre seule chance de pouvoir nous en sortir. Mais non. Eux, ils choisissent de ne pas compter sur leur capacité à se fonder dans la masse pour s'en sortir, mais plutôt de rester fidèles à Dieu. Vous savez, pendant longtemps, c'est des histoires qu'on lit en classe dominicale quand on est petit. Et lorsque il est dit que Nabucodonosor envoie chercher des jeunes gens de Juda, sans défaut corporel, venant de... J'ai zappé ça. Je n'ai vu comme judéen que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Mais tous les autres, il y avait d'autres aussi. Tous, ils étaient de Juda. Et on le voit, seul Daniel et ses amis ont pris cette résolution. Une image. Imaginez des gens qui sont en train de s'amuser dans un torrent, s'éclaboussent, profiter de ce torrent magnifique pour se baigner, etc. Mais ils ne se rendent pas compte d'un danger qui les guette. Ils sont entraînés petit à petit par le courant, sans s'en rendre compte. Soit vous restez sur le bord, peut-être, et en tentant au loin de les avertir, de leur demander de faire gaffe. Soit vous plongez dans le courant et vous allez avec eux, au milieu d'eux, au milieu du courant, là où ils sont, lorsqu'ils essaient de vous convaincre de se divertir, par exemple, vous refusez de suivre le courant. Car vous savez pertinemment que cela va vous mener à votre mort. Alors vous êtes au milieu d'eux, mais vous choisissez de marcher à contre-courant, de constituer ou de continuer plutôt avec persévérance à les prévenir, cherchant tous les moyens de les dissuader, d'aller dans le sens du courant. Parce que vous savez qu'il y a une chute là-bas, qu'ils risquent de tomber dedans. Il y a une plage en Guadeloupe où nous aimions aller nous baigner quand nous étions petits avec mes parents. Et effectivement, très au bord de la plage, il y avait un fort courant. Et si on ne fait pas gaffe, on est entraîné. J'avais regardé une émission qui conseillait d'avoir un point de repère sur la berge, sur la plage. Et lorsqu'on observait une dérive, on était un peu entraîné par rapport au repère, revenir. Avons-nous un repère dans nos vies? Qu'est-ce que notre repère? Daniel et ses amis avaient un repère. Ils avaient une formation. Ils avaient cette formation à l'école juive de la connaissance d'un Dieu unique qui s'appelle Yahvé. C'était ça leur repère. Et donc Daniel et ses amis se sont engagés dans une bataille pour ne pas se compromettre, vivre à contre-courant. Et l'un de ces enjeux de cette bataille, c'est la bataille de l'identité. Vous avez vu ce qu'on leur a proposé? La Bible nous dit que les bonhommes s'appelaient, verset 6, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Chacun de ces noms a une signification. Pour Daniel, Dieu est mon juge. Pour les autres, un nom en rapport aussi avec Dieu. Et ce que le roi va s'attacher à faire, c'est de changer leur nom. Un changement de nom, à cette époque, voulait dire un changement d'orientation, de destinée, mais plus encore, un changement culturel, un changement d'identité culturelle, un changement religieux également. Parce que tous les noms qui leur ont été proposés, donnés, ont un rapport avec le dieu babylonien. Et donc ce n'est pas anodin ce qu'est en train de faire le roi Nabucodonosor à l'égard de ces quatre bonhommes. On veut changer leur identité. Et on comprend que c'est un enjeu crucial. Pourtant, il ne nous est pas dit que Daniel et ses amis refusent de porter ces noms-là. Parce que pour eux, c'est un non-enjeu. Ce n'est pas le nom que je porte qui gère ma vie. Même si, dans la religion juive, cela a une signification importante, et nous le voyons. Le nombre de personnes dans la Bible dont on dit le nom qui signifie telle chose. Jésus qui signifie sauveur. Josué, pareil. Et là, le roi de Babylone choisit d'intervenir dans leur identité. Il leur demande, on va dire, une inculturation. On leur propose une formation de 3 ans. Et ce n'est pas juste pour acquérir des connaissances. Ça pourrait paraître anodin. Mais non. La manœuvre ici, c'est de travailler à ce que ces bonhommes-là deviennent des Babyloniens. Carrément. En oubliant leur passé, en oubliant leur identité juive. Et là où c'est plus marquant, c'est lorsqu'on leur propose de la nourriture. L'intendant leur propose d'avoir au repas ce qui provient de la table du roi. De la viande. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a à manger de la viande? Rien. Rien. Même de la viande sacrifiée aux idoles. On l'a vu dans l'Épître aux Corinthiens avec Paul, chapitre 10. Vous allez au marché, vous trouvez de la viande sacrifiée aux idoles, achetez-en, mangez. Parce que nous savons bien que les idoles sont des rien. Il y a un seul Dieu, disait Paul aux Corinthiens. Le vin, fruit de la vigne. Pourtant, Daniel décide de refuser. Parce qu'il y voit là une souillure. Ça contrevient aux ordonnances de son Dieu. Parce qu'effectivement, cette viande-là qu'on leur proposait provenait là aussi des sacrifices au Dieu babylonien. Les vins qui leur étaient proposés provenaient aussi de libations, de sacrifices. Et Daniel décide, je ne mangerai pas. Je choisis de ne pas me souiller. Et là, c'était un enjeu capital. Savons-nous choisir à quel moment accepter, à quel moment refuser? Daniel accepte de porter un nom babylonien avec ses amis. Pourtant, là, il refuse de manger les mets du roi. L'enjeu est trop énorme. Les gens me demandent de modifier mon identité. Là, on me demande de tourner le dos à mon Dieu. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je me rappelle pendant le Covid, là-haut, lorsqu'on nous était demandé de prendre des vaccins. Il y a une levée de bouclier, même de la part de certains chrétiens, qui disaient que c'est qu'on nous inculque la marque de la bête. Et trouvais ça étrange qu'on associe un vaccin à la marque de la bête. Vaccin. Pourtant, le danger n'était pas là. Je vous en dirai plus une autre fois. Savons-nous choisir? Savons-nous rejeter? Savons-nous choisir nos batailles? Et savons-nous accepter ce qui ne vaut pas le coup de se battre? Qu'est-ce qui définit mon identité de chrétien, par exemple? Le fait que j'ai une certaine morale, que je ne fréquente pas certains lieux, certaines personnes? Pas du tout. C'est pas ça qui me définit comme chrétien. Et même si le fait de lire ma Bible tous les jours avec passion, de pouvoir venir tous les dimanches au culte, célébrer avec joie le Seigneur, de prendre la scène dans la repentance et la foi, de prier avec persévérance, de donner avec générosité, avec radicalité, une part de mes biens matériels. Est-ce que finalement c'est ça qui définit mon identité chrétienne? Non. Mon identité chrétienne, elle se trouve en Christ. Et en Christ seul. Je peux très bien simuler, hein. Il y a des gens qui font ça très bien. Je peux venir tous les dimanches à l'église et puis n'avoir aucune relation avec Dieu. Faire tout ce que les autres font. Lever les mains vers le ciel pour adorer. Et puis il y arrivera un jour où le Seigneur nous dira, je te connais pas toi. Je te connais pas. Le véritable lieu de la bataille se trouvait ailleurs. Elle se trouvait dans le cœur de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Le texte nous dit au verset 8, Daniel, littéralement, place sur son cœur. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas le cœur, l'organe qui bat dans notre poitrine. Donc, il est question de l'intelligence, de la pensée et tout le reste. Daniel prend la ferme résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il accepte pourtant qu'on place sur lui un nom. Tout ça, c'est extérieur à lui. Il accepte de se laisser appeler Belshazzar. C'est pas grave. Mais pour rien au monde, il ne cédera sur son cœur. Oui, il est de la plus haute importance pour ne pas tomber dans le compromis, de comprendre où se trouve notre lieu de combat, c'est-à-dire notre cœur. Dis-moi ce que tu désires, dis-moi ce que tu veux, ce que tu imagines, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu comprends. Tout ça, en hébreu, fait partie du cœur. Je te dirai qui tu es. Daniel, en tant qu'adolescent, on estime qu'il avait entre 15 et 20 ans. Hein, Daniel. Daniel, là, en train de livrer une bataille identitaire. Et d'autant plus que cela, le contexte d'exil où ces quatre jeunes ados sont censés être les garants de la continuité de l'identité d'un peuple. Je sais que nos ados, nos jeunes, j'étais jeune, fut un temps. J'allais à l'école, moi aussi, Je sais que cette période est difficile et c'est une vraie gageure pour les jeunes qui sont parfois en recherche d'identité, eux aussi, souvent voulant s'associer à un groupe pour ne pas être laissés sur le carreau. Et nous, en tant que parents, nous devons être sensibles à cela pour ne pas les perdre. Si nous ne sommes pas conscients de ces difficultés que vivent nos jeunes, nous sommes après surpris de voir les chemins de traverse qu'ils prennent. Si nous ratons cette période de l'adolescence vers l'âge adulte, quels dégâts ça peut faire. Aidons-les à livrer bataille pour leur identité. Soyons pour eux des modèles. Ne soyons pas de ceux qui disent « faites, faites » et « nous ne faisons pas », par exemple. J'aimerais finir en disant que Daniel et ses amis avaient une stratégie de bataille. La foi et la sagesse que Dieu leur a donnée bien avant qu'ils n'arrivent à Babylone. La foi en un Dieu unique, la foi dans le seul vrai Dieu, la foi dans ce Dieu qui est dans le cœur, là où personne ne peut entrer sauf lui. Et la sagesse de savoir quand dire non, quand dire oui. La foi, la sagesse. Telle était la stratégie de Daniel. Alors que cela soit notre stratégie aussi dans notre cheminement de tous les jours. Il y a beaucoup à dire sur ce seul chapitre. J'ai choisi un angle d'attaque. J'aurais pu prendre un autre. Mais que le Seigneur nous aide à vivre dans ce monde hostile aux chrétiens, de par les lois qui sont votées, de par les mœurs qui sont vécues, qui sont contraires à nos principes, à nous. Quand est-ce qu'il faut coopérer? Quand est-ce qu'il faut refuser cette coopération? Tel est notre défi aujourd'hui.